Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 10 janvier 2025. Nouveau coup dur dans le quartier Saint-Roch. Le magasin de plein air L'Accordé fermera ses portes au début février. Des commerçants de la rue Saint-Joseph sont inquiets et attendent fermement des actions de la ville. On écoute Nathalie Deschaines de Champagne Chocolatier.
La ville de Québec, M. le maire, nous a abandonnés. On ne peut pas laisser mourir cette rue-là, puis les commerçants. Fait qu'il y a des bureaux qui sont vides. Qu'on fait pas des logements. Il faut que ça bouge. Là.
Retrouvez le reportage d'Alice Zanetta dans la section Actualité du CKIAFM.org. Le Centre Justice et Foi, qui se dédie à l'analyse sociale, la recherche et la réflexion et qui publiait notamment la revue Relations depuis plus de 80 ans, cesse ses activités. C'est ce qu'a annoncé hier Gilles Mongeau, président de son conseil d'administration. Cette décision s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile. Des défis financiers et organisationnels auraient rendu impossible le redressement de la situation. La décision prise par le provincial des Jésuites met par conséquent définitivement fin à la publication de la revue Relations. Le Comité pour le droit à la scolarisation annonce qu'il sera en mesure de se doter d'une permanence grâce au soutien financier de Centraide. Le comité se réjouit de cette nouvelle qui lui permettra d'être mieux équipé pour informer les parents et les accompagner dans leurs recours. Il compte aussi être davantage présent sur la place publique et mobiliser les différents acteurs tout en poursuivant son travail de documentation et de recherche. En 2023, plus de 2500 élèves étaient en situation de rupture de service. La majorité de ces élèves présentaient un handicap ou un trouble du comportement, chiffre qui serait en augmentation constante depuis quelques années. L'école Saint-Albert, située dans Limoilou, sera réaménagée. 7 classes et un plateau d'éducation physique seront ajoutés, répondant en partie aux besoins d'espace créés par l'augmentation du nombre de jeunes dans le secteur. Le projet entraînera par ailleurs le déménagement du laboratoire d'initiative technologique LOCTE, qui sera relocalisé au Centre de formation professionnelle de Neuchâtel. Demain dimanche a lieu la 2e édition du Salon multiculturel et écologique, une initiative qui a pour objectif de promouvoir le vivre ensemble. Demain, de 10h à 15h, des conférences et des ateliers se déroulent à la Maison de la coopération, située au 155 boulevard Charest. Dimanche, c'est au Centre Monseigneur Marcoux, situé au 2025 Adjutant Rivard, que des exposants exposantes ainsi que des prestations d'artistes attendront la population. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Cultiver la pauvreté comme une plante aromatique, la sauge par exemple. Ne vous donnez pas trop de peine pour acquérir de nouvelles choses, que ce soit de nouveaux habits ou de nouveaux amis. Retournez les anciens habits, retournez vers les anciens amis. Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Vendez vos vêtements et gardez vos pensées. Dieu veillera à ce que vous ne manquiez pas de compagnie. Ne cherchez pas si obstinément à vous développer, à vous soumettre à de nombreuses influences dont vous serez le jouet. Tout cela n'est que dissipation. L'humilité, comme l'obscurité, permettent de voir les lumières célestes. Les ténèbres de la pauvreté et de la vilenie s'assemble autour de nous et, ô miracle, la création s'épanouit sous nos yeux. Qui plus est, lorsque vous vous trouvez limité dans vos actions par la pauvreté, lorsque, par exemple, vous ne pouvez acheter ni livres ni journaux, vous n'êtes que confiné à la plus essentielle et la plus vitale des expériences. Vous êtes forcé de faire avec le matériau qui produit le plus de sucre et le plus d'amidon. C'est la vie à l'os, et c'est ainsi qu'elle a le plus de goût. De telles circonstances vous interdisent d'être frivole. Nul homme ne perd jamais à un niveau plus bas à cause d'une magnanimité déployée à un niveau plus haut. La richesse superflue ne peut acheter que des choses superflues. Il n'est besoin d'aucun argent pour satisfaire les besoins vitaux de l'âme. Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va reparler de nouveau du temps. Aujourd'hui, avec Christine Lemaire, qu'on a eu, je pense que c'était en novembre ou en décembre dernier, qui nous a parlé d'abord de son livre qu'elle avait écrit sur le temps, dans les années 2010. Ça fait déjà un bout de temps, mais c'est un très bon livre que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai réinvité Christine, son livre à contre-temps. Puis aujourd'hui, Christine va aborder avec nous la théorie de Hartmut Rosa, qui est un sociologue qui s'est intéressé à l'accélération du temps. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant ça, j'ai toujours ma petite revue de presse et quelques petites annonces à faire. On a eu un café philo hier qui était très intéressant, café mot de tasse. On a parlé du roman d'Albert Camus, L'étranger, puis c'est drôle parce que en discutant dans le café philo, je me rendais compte qu'il y a un lien entre L'étranger d'Albert Camus et le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va revenir là-dessus tantôt. Et pour ceux qui s'intéressent, il y aura un autre café philo vendredi de la semaine prochaine. Ça se trouve être le 17 janvier à la librairie Café, La Liberté à Sainte-Foy sur la route de l'église. Pour ceux qui s'intéressent, seulement téléphonez à la librairie pour donner votre nom parce qu'on prend des inscriptions pour ce café philo-là. Dans mes lectures que j'ai retenues cette semaine, on va essayer d'aller assez rapidement pour ne pas trop prendre de temps de notre invité. Évidemment, ce qu'on retient, c'est les feux à Los Angeles. C'est incroyable. On en parle quasiment à chaque semaine. C'est les changements climatiques. Là, on voit qu'on est dedans, là, les effets des changements climatiques, et ça va aller en augmentant, en s'amplifiant. Alors, c'est inquiétant. Alors, il y a un bon texte là, dans Le Devoir de jeudi d'Alexis Riopel, et il dit « La catastrophe rappelle également celle de la petite ville touristique d'Hawaï. » C'était Haina, je pense, le nom de la ville. En l'espace de quelques heures, les flammes passaient les collines environnantes couvertes d'herbes invasives sèches et envahissaient le cœur de la municipalité de 13 000 âmes. Le feu de brousse devenait un feu urbain, tuant au moins 102 personnes. Des vents exceptionnels sifflaient également ce jour-là. Il s'agissait du feu le plus mortel aux États-Unis en un siècle. Selon une étude de Glenn McDonald, un géographe de l'Université de Californie à Los Angeles, la saison des feux de brousse va s'allonger dans le sud de Californie en raison des changements climatiques. Il y a donc plus de risques pour qu'elle coïncide avec les puissants vents de Santa Ana qui soufflent en hiver. La combinaison, on le voit cette semaine, est explosive. Il y a aussi, un texte dans Le Devoir d'aujourd'hui, vendredi, sur le fait que la ville de Montréal s'est réchauffée de 4 degrés. C'est que ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on parle du réchauffement de la planète, c'est une température moyenne de la planète qu'on va avoir des résultats, semblerait, bientôt là-dessus, qui est autour de 1,5 degrés. Sauf qu'il y a des endroits qui se réchauffent plus vite, dont les villes. Et Montréal, on dit que Montréal est déjà rendu à 4 degrés en 2024, là, 4 degrés par rapport à l'industriel de réchauffement. Ensuite de ça, j'avais aussi un texte que j'ai lu dans le monde diplomatique. Le monde diplomatique hebdo. Et c'est un compte-rendu de la COVID-19. On est sorti de la grosse épidémie de COVID, du confinement, puis on est en train d'entrer dans une période où on vit avec le virus de la COVID. Sauf que dans l'article, on nous rappelle que la COVID est quand même plus mortelle que la grippe, et qu'on fait un bilan du nombre de morts. Et on dit, selon l'OMS, sur les 776 millions de cas officiellement recensés en 2000, dans 234 pays. 7 millions de personnes en sont mortes. C'est quand même pas rien. Même si les chiffres sont sûrement plus importants en France, on comptabilisait en 2023 un bilan total d'au moins 168 000 morts. 50 plus tard, la COVID-19 s'est normalisée, voire banalisée, s'imposant comme l'un des nouveaux mots avec lesquels il faut composer au quotidien. Ce qu'on oublie aussi, ce qui est différent de la grippe, c'est que la COVID peut avoir un impact sur la santé à long terme. Et ça, on n'a pas encore démystifié les phénomènes de la COVID longue, donc c'est à suivre ça aussi. Ensuite, dans le Devoir, toujours de mercredi, 5 dossiers à garder à l'œil cette année, évidemment, c'est l'élection de Donald Trump. Donald Trump et la crise climatique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite de vives inquiétudes sur le fond environnemental, en particulier en matière de lutte contre la crise climatique. Après tout, le milliardaire est un ardent défenseur de l'exploitation des énergies fossiles. Il a nié à plusieurs reprises la réalité du réchauffement planétaire. Il a aussi promis d'augmenter l'extraction pétrolière et gazière dans un pays qui est déjà le premier producteur mondial de pétrole et le premier exportateur de gaz naturel liquéfié. En tout cas, ça aussi, c'est à suivre. On verra ce que ça va donner. Finalement, un texte qui est un peu dans la lignée de ce dont on va parler aujourd'hui, dans le Devoir de lundi dernier, « Le passé, le futur et la nature », c'est un texte de Marc Boucher. « La vitesse imposée par notre société de consommation nous enlève une lenteur et une résonance avec le monde qui nous entoure. » On va en parler. Justement aujourd'hui, depuis la fin du paléolithique, en très peu de temps, historiquement parlant, ce rapport avec le monde n'a cessé de devenir plus abstrait et moins harmonieux. Technologie lourde, société hiérarchique, monothéisme, pouvoir politique tyrannique, capitalisme sauvage et hyperconsommation ne sont que quelques exemples d'inventions humaines qui ont sacralisé notre dominance et, du même souffle, nous ont éloignés d'un réel naturel pour finalement nous déraciner et nous faire oublier ces liens qui étaient tissés entre nous, la nature, nos ancêtres et nos descendants. Justement, comme depuis le début de la saison, le thème de l'émission pour toute l'année, c'est les liens. Et aujourd'hui, c'est une émission qui va justement porter sur les liens. Alors, ça va être très intéressant. Donc, une petite pause musicale. Puis, au retour, on est avec Christine Lemaire pour parler de l'accélération.
Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Ils viendront de fleurs qui s'installent toutes fraternelles et amicales loin des champs de bataille où des humains sont pris en tenaille. Ils s'activent lorsque je me tais, sont pleins de promesses, je le sais, qu'arrive la calmie nécessaire pour chérir entre ciel et terre. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. dans le roulis du Vaigevin, sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace, pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches.
C'était Jean-Marc Corel de son dernier album, tout juste frais sorti, Je cours après la lune. C'est très beau. C'est, la pièce, c'était Fruits et mystères. Avant ça, on avait eu Richard Séguin, Devant moi la vie. Alors, Christine, est-ce que tu es avec nous?
Eh oui. Bon. Merci de me réinviter.
Ah, bien, merci d'être avec nous. Nous, notre émission parle de simplicité volontaire, puis le temps, c'est un élément fondamental de la simplicité volontaire. L'idée, c'est de
retrouver notre... C'est très stratégique.
Voilà. Oui. Alors, c'est pour ça que tu es invité, parce que c'est très pertinent ce que tu fais. D'ailleurs, comme j'en parlais tantôt, là, je ne sais pas s'il est encore disponible, là, ton livre, à contre-temps, mais c'est un beau livre sur la simplicité volontaire, ça.
Oui, parce qu'il est très influencé par le mouvement. Effectivement, je voulais m'impliquer, puis je vivais ça de très près. Fait que ça ne peut pas avoir fait autrement que de colorer mes propos.
Puis, ce livre, je fais un petit peu un lien avec l'émission d'aujourd'hui, c'est que ce livre-là, il s'adresse plus à l'individu. Comment on voit le temps, comment on vit le temps. Évidemment, on va en parler aujourd'hui, mais Armut Rosa, lui, c'est un sociologue et il s'intéresse plus à l'accélération au point de vue de la société en général. Et on pourrait dire que c'est plus lié, je dirais, au mouvement de décroissance un peu.
Oui,
que,
absolument.
Ce que Rosa dit. Alors, on va commencer, on va avoir trois blocs aujourd'hui, puis... pour le premier bloc, là, on va. Je pense qu'on faudrait faire une petite intro. Là. Je sais pas si je vais dire le titre de ton livre, Christine, là, c'est À contre-temps, gérer moins et vivre mieux, pour ceux qui s'intéressent. Puis je donnerai des références aussi pour Rosa tantôt. Alors,
oui.
Voilà. Je pense qu'on pourrait commencer par. Tu pourrais nous présenter un peu la théorie de Rosa, là, théorie de l'accélération.
OK. Armut Rosa, je veux juste mettre en contexte, là, c'est un sociologue quand même assez jeune, entre guillemets, parce qu'il est aussi philosophe, puis généralement, on peut référer à la philosophie comme avec du vieux monde déjà mort, mais non, lui, il est bien vivant, il est né en 1965. C'est un intellectuel allemand, il est sociologue et philosophe, comme tu l'as dit, puis pour la petite histoire, il a fait sa thèse de doctorat sur Charles Taylor, notre Charles Taylor de la commission Bouchard-Taylor. Fait qu'il y a des liens à faire entre le travail de ce philosophe-là et l'allemand Rosa. Il a écrit 4 livres, mais dont 2 qui sont particulièrement importants et majeurs. Le premier, c'est Accélération, une critique sociale du temps, ce qui l'a amené à réfléchir sur les solutions à l'accélération. Alors, il a écrit après Résonance, une sociologie de la relation au monde. Alors, on va commencer par... Là, on va parler plus de l'accélération, mais dans le deuxième segment, on discutera de la résonance et de comment nous, on appelle ces mots-là. La thèse de Rosa, c'est que l'accélération, c'est ce qui définit le mieux les sociétés modernes. Et puis, lui, il fait vraiment une distinction entre les moteurs de l'accélération et la technologie. Parce que nous, on est toujours porté à cibler la technologie comme la grande responsable. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que à l'origine, la technologie, toutes les innovations technologiques, il aurait pu nous améliorer la vie, puis il aurait pu faire en sorte de nous sauver du temps. L'exemple le plus simple, là, c'est les courriels. Par rapport à la lettre qu'on écrivait à la main et que là, il faudrait trouver du papier, fallait écrire notre lettre, fallait marcher jusqu'au bureau de poste pour l'envoyer. Aujourd'hui, le courriel, ça nous permet de faire exactement la même chose en beaucoup moins de temps. Mais au lieu de se dire, oh mon Dieu, j'ai plus de temps pour aller marcher sur le bord de la mer ou dans la rue, on a décidé qu'on aurait plus de courriels et plus de monde à contacter, ce qui fait que ça nous a pas du tout sauvé de temps. Il donne un autre exemple du transport. Avant, les gens prenaient une heure à se rendre d'un point A à un point B à pied. Aujourd'hui, ça prend une heure toujours. On décide d'habiter près de notre travail. On peut prendre la même heure. Avant, on habitait près de notre travail, puis ça prenait une heure à pied. Aujourd'hui, on peut aller loin, loin, loin dans les banlieues parce que la même heure, on va quand même la passer en faire du transport entre deux lieux, mais on va juste être plus loin. Donc, plus de kilomètres, plus loin, mais pour le même résultat que le temps que l'on a pris, il n'a pas du tout été réduit. Alors, c'est son idée la technologie et l'accélération étaient à l'origine faits pour nous améliorer la vie. Qu'est-ce que c'est que ça a été perverti puis que ces objectifs très nobles ont été détournés? Ben, c'est l'idée de la croissance. Parce que c'est l'idée capitaliste là, du fait qu'on peut, on doit toujours demander plus, avoir plus, acheter plus, et tout cela en moins de temps. Fait que ça mène à une perversion ou un détournement de l'objectif d'origine qui était de nous sauver du temps. C'est un peu ça, sa théorie à Rosa.
Ça me fait penser un peu, là, je fais un lien avec la dernière fois qu'on s'était parlé. Dans ton livre, tu parles du temps linéaire, qui est le temps qu'on utilise de nos jours. Puis c'est récent, ça, le temps linéaire. C'est venu avec l'horloge, l'invention de l'horloge. Donc, ça aussi, tu sais, c'est une technologie qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Mais des montres, là, c'est seulement qu'au 20e siècle que des gens ont des montres.
Oui, ils sont, oui. C'est un objet de luxe. Avant, les premières horloges, ça a été les beffrois, hein, parce que personne n'avait une horloge chez soi. C'était le beffroi au cœur du village ou de la ville qui nous indiquait le temps. Mais le temps linéaire, on l'a dit la dernière fois, c'est un temps qui est utile parce que il nous permet de nous rencontrer, de nous coordonner. On se dit, je te vois au restaurant ce soir à 6 heures. Ben, on a besoin du temps linéaire pour se donner des balises. Là où ça commence à être un problème, c'est que on s'est mis à tout mesurer avec le temps linéaire, alors que, comme on le disait la dernière fois qu'on s'est vu, il y a plusieurs temps qui existent et qui conviendraient mieux à ce que l'on est en train de vivre. Alors oui.
C'était ça ton livre, dans le fond. Là, pour ceux qui s'intéressent, comme je vous dis, il faudrait que vous trouviez le livre de Christine, là, à contre-temps. C'est à ce moment-là, le temps linéaire. C'est Fidesz. Puis c'est comment on vit avec le temps linéaire, puis on oublie les autres formes de temps. Puis dans le passé, les gens pensaient pas en termes de... Ils pensaient beaucoup plus en termes de... C'est un véhicule. Alors, on pouvait demander à quelqu'un de réparer mes souliers. Il disait pas « ça prendra 2 heures ». Il disait « ça prend le temps de réparer des souliers ». Puis les gens savaient en gros qu'est-ce que ça voulait dire « réparer des souliers ». C'était en fonction du véhicule que les gens voyaient le temps. Puis je pense qu'on vivait beaucoup plus notre vie à ce moment-là, tandis qu'aujourd'hui, on est sorti de nous-mêmes à cause des horloges et des montres.
Oui, c'est que la durée, au lieu de l'avoir intégrée par notre action, elle est sortie de nous dans une horloge. Puis tu as raison de dire, c'est très pertinent de dire que c'est récent, parce que ça a commencé à être vraiment important avec les innovations au niveau du transport, le train, tout ce qui était, notamment le train, là, on a commencé à imposer comme des horaires. Mais avant ça, on n'avait pas besoin de... On avait l'Angélus qui sonnait à midi, mais pour le reste du temps, on se fiait pas mal au soleil. Là, on se disait, ah ben là, c'est l'aurore. Puis bon, le soleil se couche. Alors, ça aussi, tu vois, c'était un lien qui était beaucoup plus avec la nature qu'avec, encore une fois, un objet qui nous est extérieur. Quand on voit... on le fait encore un peu, mais on ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression qu'on a toujours été... Ça a toujours été comme ça, qu'on soit dirigé par les horloges. Mais non, c'est même extrêmement récent. Moi, je sais bien que mes grands-parents, qui étaient des agriculteurs sur une ferme, ils se fiaient bien plus au soleil, puis donc ils ajustaient leur journée en fonction du jour en hiver puis du jour en été. C'était un lien avec la nature très, très direct qu'on a perdu.
Puis on est très dépendant de nos montres puis de nos horloges. On garde toujours l'heure toute la journée. C'est comme un peu comme nos téléphones, puis etc. Alors que ça n'existait pas avant. Les gens ne pensaient pas à ça, de regarder l'heure.
Non.
Ils vivaient
en fonction
de la vie, là, tout simplement.
Non. Généralement, l'horloge, c'était... Il y en avait une par maison. Puis souvent, il était dans le salon ou la place où on n'allait jamais. Ou bien c'est les premières horloges, les premières montres, là, les grosses montres qu'on mettait dans la poche. Là, puis ça, c'était un bijou d'homme. C'était pas un bijou de femme. Alors c'est des choses qu'on doit se rappeler pour se dire, hey, en fait, ça nous aide à nous désaliéner, je dirais, à nous libérer du fait de dire, hey, là, je vais arrêter de toujours regarder l'heure, là. Je vais retrouver mon humanité, puis je vais essayer de me diriger par autre chose que la montre.
Mais là, on va revenir à Rosa. Là, je voulais faire une petite parenthèse parce que tu me parlais de Rosa qui, lui, voit comme ça les technologies qui accélèrent notre vie. Bon, OK, là, c'est notre premier bloc. On parle d'accélération. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la théorie de l'accélération par rapport à Rosa avant qu'on embarque dans le deuxième bloc, là?
Bien, je vais l'annoncer, là. C'est que lui, je rappelle que c'est un sociologue. Alors, dans ce livre-là, il parle en sociologue, puis à la fin de ce livre-là, il est très, très négatif en disant que parce que on parle de l'accélération, donc le contraire, ça serait la décélération. Et lui, avec ses yeux de sociologue, il nous dit que ça sera presque impossible à ralentir. Alors, il va se tourner du côté de la philosophie, puis là, on va en parler dans le deuxième segment.
OK, OK. Puis, je pense aussi que Rosa est critique de toute notre société mercantile aussi.
Absolument.
On pense juste en fonction de l'exploitation. C'est ça, l'accélération, c'est puis par rapport à la croissance. C'est la croissance de l'exploitation des ressources, d'exploiter notre monde, faire de l'argent, etc. La course mercantile qui va en accélérer.
Oui, oui. Il dit que ça biaise tout notre rapport au monde. Ça, c'est clair pour lui. Et c'est la cause. C'est pas les technologies, c'est le fait que... puis là, dans son livre, il parle pas... La technologie, c'est comme un moteur qui nourrit l'accélération, mais il y a d'autres moteurs, dont notre simple volonté d'améliorer notre sort. Alors, c'est pour ça que c'est si profond, puis que il voit pas la solution parce que c'est ancré presque dans notre façon d'être en société.
Bon, OK. Là, on a mis la table.
Oui.
C'est plus sociale, ton livre, c'est plus, je dirais, proche de la simplicité volontaire. Là, on est plus dans la décroissance.
Oui. Okay. Mais Rosa aussi va s'en aller vers ça.
Bien, c'est ça que j'allais dire.
Vers, voyant pas d'issue au niveau sociologique, il se tourne vers la philosophie, l'idée de la vie bonne. Et puis là, il va nous parler de résonance.
Alors, on va prendre une pause musicale pour notre deuxième partie, qui est plus...
Oui.
Sur le ralentissement, sur la lenteur, selon Rosa. Alors, on prend une pause musicale, puis on continue la deuxième partie au retour.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, préparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
Un petit peu d'humour sur notre sujet, c'était Boris Vian, Le Petit Commerce.
Oui.
Alors, Christine, alors là, on est dans le deuxième bloc. Là, tu vas nous parler du ralentissement selon Rosa.
Bon, là, en fait, c'est que là, il nous dit, bon, après la conclusion de l'accélération, on se dit, ben, pour améliorer notre sort, il faudrait décélérer. Et là, il nous dit que individuellement, c'est bien dur à faire décélérer parce que ça nous sort du jeu social. Ça, tu sais, puis ça, quelqu'un qui a intégrer la simplicité volontaire dans sa vie, il s'aperçoit des fois qu'il est un peu décalé avec ses voisins et son monde autour. On s'en aperçoit tous quand on a décidé de décélérer. Ce qui fait que, mettons, chez soi, ça peut se faire, mais au niveau du marché du travail ou dans tout ce qui est plus social, ben ça nous sort du jeu. Alors, il se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est intéressant parce que il tourne, là, il s'en va vers la philosophie, puis il tourne autour de ce qu'est la vie bonne. Et il nous présente le concept de résonance. Qu'est-ce que c'est pour lui la résonance? C'est d'être en lien avec le monde au lieu de le considérer comme étranger. D'où ton affaire de tantôt avec Albert Camus, l'étranger, c'est un très bon exemple. Alors, on devient étranger du monde parce qu'on n'est plus capable d'être en communion avec lui. On le voit toujours comme une ressource à exploiter. Donc, ce que l'on exploite, on peut pas être en contact avec lui, on peut pas être en lien profond avec ce que l'on exploite. Et là, ça se vérifie dans tous les domaines. Si on exploite notre corps, on n'est pas en lien avec lui. Si on exploite on veut exploiter notre environnement, drill, baby drill, ça fait qu'on l'exploite encore et on coupe le contact. Avec les autres aussi, tout le colonialisme, les coloniaux arrivaient dans un pays puis le avaient comme impression de leur montrer c'était quoi la vraie vie. Et ça coupait complètement le contact avec eux parce que c'est quoi être en lien? C'est non seulement de parler à l'autre pour lui montrer quelque chose ou dans le but de l'exploiter, mais c'est aussi de se laisser toucher par l'autre, c'est de se laisser transformer par l'autre. Et dans une attitude coloniale, ça fonctionne pas. Ça a fonctionné des fois pour le minimum, là, ça fonctionnait quand les Français sont arrivés au Québec, c'est quand même les Premières Nations qui leur ont donné les moyens d'être capables de vivre dans notre climat, là, on s'entend là-dessus. Mais encore là, l'œil du Français, c'est je suis supérieur et toi, tu fais juste me donner des outils pour que moi, je vive mieux. Ils s'en foutaient complètement de ce que comment vivaient les Premières Nations. Alors, pour Rosa, cette façon d'être en résonance avec le monde, ce que cela produit, c'est une lenteur. Mais c'est une lenteur qui définit comme une richesse de temps. Puis là, je voudrais te lire ce qu'il dit, là, c'est une citation. La lenteur, elle correspond à un état dans lequel on dispose de suffisamment de temps pour faire ce que l'on doit faire. Au temps qui nous reste après avoir tout fait. L'état de lenteur, c'est quand il nous reste encore du temps disponible librement. La lenteur, c'est le sentiment de ne pas être sous la pression d'une urgence, de ne pas être obligé de faire une chose sans avoir le temps de la faire. Alors, lui, il dit que ça, c'est une richesse temporelle, qui n'est pas de l'ennui, puis qui n'est pas une décélération contrainte. C'est un événement, c'est un élément qui renforce notre autonomie. Fait que, il dit que, puis ça, c'est là qu'elle est la différence. C'est que, il dit que faire lentement n'est attractif que si l'activité qu'on pratique est résonante avec soi-même. Parce que, faire lentement quelque chose que l'on n'aime pas faire ou que l'on ne veut pas faire, c'est un peu comme tourner le couteau dans la plaie, là. On n'a pas le goût d'aller plus lentement, on veut s'en débarrasser, fait qu'on va vite. Mais donc, la lenteur, c'est pas suffisant pour expliquer ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire et qui produit une lenteur, c'est de faire un contact, de se mettre en lien avec tout ce qui nous entoure et nous-mêmes pour être capable de savoir ce que l'on veut faire. Quelle est, tu sais, de retrouver cette sagesse-là interne qui nous dit qu'on n'a pas besoin d'une montre pour nous dire quoi faire, comment le faire et en combien de temps le faire. C'est qu'on prend le temps de faire ce que l'on a à faire. Alors ça implique une discipline personnelle. Ça implique aussi de prendre des décisions par rapport à ce que l'on veut faire. Donc, l'idée, c'est pour ça que, dans le fond, décélérer, c'est vrai, mais c'est pas c'est pas juste ça qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est décélérer, mais sur les choses qu'on a décidées, qu'on voulait vraiment faire, puis qui nous tenaient vraiment à cœur. Là. C'est comme notre essentiel. Là.
Il y a aussi un aspect d'écoute là-dedans aussi. C'est que c'est pas juste d'être actif, mais d'aussi écouter, puis d'être à l'écoute du monde, puis... Ça, c'est sûr que c'est un numéro de Philosophie Magazine qui est peut-être difficile à trouver, mais en tout cas, c'est Philosophie Magazine d'octobre 2018. C'était sur la résonance. Rosa avait sorti son livre là, sur la résonance oui. À ce moment-là. Et l'article, le titre de l'article, c'est « Je parle au monde et il me répond ». C'est que c'est ça la résonance, c'est qu'au lieu d'être... coupé du monde, on échange avec le monde. On communique oui. Et puis on écoute qu'est-ce que la résonance est d'écouter ce que le monde nous dit. Quand on dit le monde, c'est pas les gens, c'est l'univers, c'est le contact oui. Avec ce qui nous entoure. Ouais.
Mais c'est ce qui l'a amené à écrire son dernier livre. Je sais pas si c'est vraiment son dernier, mais celui qui a suivi tout de suite la résonance. Puis c'est il est beaucoup plus court là comme livre. Ça s'appelle « Rendre le monde indisponible ». Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est beau d'être en lien avec quelqu'un, mais si on l'écoute pas, effectivement, on sera jamais en lien avec lui parce qu'il pourra pas nous toucher étant donné qu'on l'écoute pas. Puis rendre le monde indisponible, pour lui, c'est un peu, justement, arrêter de le considérer comme quelque chose à exploiter. C'est de lui redonner à ce qu'il y a autour de nous leur propre liberté, leur propre autonomie, parce que tu ne peux pas être en lien avec quelqu'un qui est devenu comme un objet. Qui se considère comme un objet ou qui est dégradé au point de n'être plus lui-même. Alors, il dit que, dans le fond, socialement, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est de nouveau rendre le monde indisponible, de lui donner une certaine liberté pour qu'il puisse effectivement parler de sa propre voix, pour que nous, on écoute la vraie voix de l'autre et qu'on... T'sais, on n'est pas en lien avec des choses comme le voudrait la consommation. Là. On est en lien avec des éléments, les éléments de la nature. On est en lien avec d'autres personnes, d'autres ethnies, d'autres classes sociales, peu importe, mais en lien. Alors, puis à ce moment-là, c'est là que le miracle. Moi, j'avais appelé ça dans mon livre, là, j'appelle ça le temps à double fond. C'est parce qu'il y a une espèce de miracle à ce moment-là. Parce que la résonance, ça réfère aux cordes, tu sais, aux cordes d'un violon ou aux cordes de la guitare. Quand tu la touches, elle résonne, puis là, c'est là qu'elle vient t'envahir. Puis dans ce que tu as lu sur Thoreau tantôt, lui, il appelle ça les besoins vitaux de l'âme. Ça nous dirige immanquablement vers la spiritualité, mais pas la religion chrétienne, pas la religion quelle qu'elle soit, la simple spiritualité d'être comme appelé vers du plus grand que soi ou vers du autre. Parce que c'est ça qu'on fait quand on rend le monde indisponible, quand on décide de se mettre en lien avec quelqu'un, mais de non seulement de se mettre en lien, mais d'accepter sa propre vulnérabilité, puis de se laisser toucher, puis de se laisser transformer. C'est là que le miracle se fait et qu'on dirait que le temps il s'ouvre. Tu sais, quand tu es avec un ami, puis que tu jases, puis que tout d'un coup, là, tu regardes l'heure, puis tu dis, mon Dieu, il est tard, mon Dieu, je suis en retard, là, il faut que je m'en aille parce que j'ai pas vu le temps passer. Ben voilà où on peut prendre. Puis moi, dans ma tête à moi, le temps à double fond, c'était un peu ça. C'est des beaux cadeaux que le temps te fait parce que il devient extrêmement généreux. Puis t'as l'impression d'avoir vécu 3 heures à parler avec ton ami. Ben en fait, t'en as vécu 3, puis finalement, ça a passé tellement vite que tu pensais qu'il y avait juste 1 heure de passé. Mais justement, c'est comme si tu avais vécu 3 heures en 1 heure. As-tu vu comment le temps peut devenir généreux? Ce que l'on ne voit jamais dans le temps linéaire. Le temps linéaire est en 1 heure, c'est 1 heure, puis quand le cadran sonne, quand notre minuteur sonne, ben c'est ding, 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 c'est fini. Mais un temps qui résonne avec des liens qui résonnent, ben c'est un temps qui peut s'ouvrir complètement sur l'éternité.
Bon, là, je rappelle tout le monde qu'on est avec Christine Lemaire, qui a écrit le livre « À contre-temps » chez Fides. Là, Christine, on va prendre une autre pause musicale.
Oui.
Puis au retour, il va nous rester 4 minutes à peu près, là, quelques minutes, pour conclure, puis ramasser là, ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant.
OK.
Nathalie Choquette. Je l'ai repassé cette pièce-là parce que je trouve ça vraiment beau. C'est Vers Pensiero, c'est tiré d'un opéra de Verdi. Et c'est Vers Pensiero, ça veut dire va, pense, observe le monde. C'est magnifique. Et c'est le rythme de la valse, qui est un rythme beaucoup plus lent. Et on pourrait peut-être dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de monde, puis les gens vivaient au rythme de la valse.
C'est oui.
Beaucoup plus harmonieux, hein, je trouve.
Ah oui, tout à fait. C'est alors, une belle image.
Alors, Christine, il nous reste 4 minutes, environ 3 minutes, pour conclure par rapport à Rosa.
Bien, en fait, j'essaierai d'être le plus concrète possible là, pour ce qui suit avec ce dont on a parlé. Je dirais que, on a dit qu'il y avait le décélérer ou bien aller chercher avoir des relations résonantes avec le monde. Mais le matin, là, quand on se lève là, puis qu'on veut essayer de décélérer puis de puis que de prendre le temps de bien faire les choses, ben ça nous amène à vouloir dégager notre horaire, dégager l'essentiel. Puis des fois, on est en janvier, là, c'est le temps des résolutions. Ben l'affaire, c'est de décider tous les jours. Qu'est-ce que je dégage? Puis il y a des journées qui se présentent de façon très fluide, puis ils n'ont pas besoin de dégager. Mais quand on a 2-3 rendez-vous dans la même journée, ou qu'on décide de faire ça et ça et ça et ça, puis qu'on sent là, tout coincé dans notre corps, là, puis dans notre estomac, là, bien, l'idée, c'est de se dire, je vais enlever une chose. Je vais enlever une chose. Peut-être pas de façon définitive, peut-être que je vais juste la replacer à la semaine d'après. Mais de se dire, je vais enlever une chose pour me donner de l'air, pour me donner pour me donner cette richesse-là du temps, qui comme Rosa le dit, c'est d'apprendre le temps de faire ce que l'on a à faire. En tout cas, tu sais, nos parents, ils disaient, ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ben. Pour être bien fait, il faut prendre le temps qu'il faut pour les faire. Mais souvent, c'est pas si compliqué que ça. Puis là, bon, on choisit en fonction de quoi? Ben, on choisit en fonction de ce qui est vraiment important pour nous, en fonction de nos priorités. Puis ça, c'est là, en janvier, c'est le fun de pouvoir se dire, bon, ben cette année, je vais prendre ces décisions-là de dégagement en fonction de quels critères? C'est quoi mes valeurs qui vont faire que je vais choisir ça à dégager au lieu de l'autre chose? Et quand on est guidé par ça, quand on a des résolutions ou bien des valeurs bien établies, ben c'est très facile le matin quand on garde son horaire de se dire bon là ça coince, je me sens pas bien, je vais dégager quelque chose. Qu'est-ce que je dégage? Ben ça dans ma tête à moi, ça c'est absolument essentiel, ça l'est moins. Et puis au jour le jour, c'est une belle discipline puis c'est une belle habitude à prendre par rapport à son temps.
Ben, écoute, Christine, l'émission est terminée. On termine bien, je trouve, avec une belle proposition. Alors, je rappelle à tout le monde qu'on était avec Christine Lemaire. Ceux qui s'intéressent, elle a écrit un livre sur le temps que je trouve bien intéressant pour les simplicitaires. Le titre, c'est « À contre-temps » chez Fides. Puis pour ceux qui voudraient aller plus loin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, c'est Hartmut Rosa, H-A-R-T, c'est un Allemand, H-A-R-T-M-U-T, R-O-S-A. Et son livre, il y a Résonance, puis il y a aussi Rendre le monde indisponible. Et vous pouvez aller...
C'est aux éditions, tous ces livres sont aux éditions La Découverte.
Et c'est quand même du stock, là. C'est un universitaire, c'est un sociologue, c'est très intéressant, mais assez dense, là.
Oui, mais vous pouvez l'écouter sur YouTube. Et il fait des conférences. Moi, j'ai écouté une conférence sur YouTube, puis c'était pas dense du tout. C'était même peut-être, très agréable.
Peut-être
très
mieux, souriant. À moins que vous vouliez vraiment approfondir ça, peut-être mieux d'aller voir sur YouTube Hartmut
Rosa. Ça fait une bonne introduction.
Rosa. Alors, oui. Ben merci encore, Christine. Puis j'aurais le goût de te réinviter peut-être au printemps, qu'on pourrait reparler du temps. Parce que c'est vraiment pour nous autres, là, les simplicitaires, la réflexion sur le temps, c'est comme important. Alors, c'est très pertinent, là, ton livre, puis ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors, merci encore. Puis on se dit à la prochaine.
OK, c'est beau.
Bye.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 10 janvier 2025. Nouveau coup dur dans le quartier Saint-Roch. Le magasin de plein air L'Accordé fermera ses portes au début février. Des commerçants de la rue Saint-Joseph sont inquiets et attendent fermement des actions de la ville.